Souleymane Baldo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi les forces armées soudanaises ont-elles pris le dessus à Khartoum?
Les forces armées soudanaises ont été dans le défensif depuis le début de la guerre, n'est-ce pas? Elles ont subi beaucoup de revers parce que l'armée soudanaise, au début de la guerre, n'avait pas des troupes, disons, de soldats, d'infanterie. L'infanterie de l'armée soudanaise, c'était les forces de soutien rapide. Et donc, lorsque les forces de soutien rapide se sont tournées contre cette armée, c'est pourquoi ils ont perdu plusieurs quartiers généraux dans la capitale, y compris les quartiers généraux de l'armée soudanaise tout entière. Et depuis le mois de septembre 2024, l'armée soudanaise a pu recruter des milliers de volontaires. Et il y a aussi des volontaires islamistes, des brigades djihadistes du mouvement islamiste soudanais qui se sont rejoints à l'armée et qui, disons, étaient le fer de lance de cette armée dans cette offensive. C'est comme ça qu'ils ont pu tourner la situation en faveur de l'armée.
Et par où se sont enfuies les forces de soutien rapide?
Les forces de soutien rapide disent qu'ils se sont retirés volontairement pour regrouper et pour se réorganiser. Et donc, ils sont partis de la capitale vers l'ouest du Soudan. Ils se sont regroupés quelque part. Il y a des clips vidéo qui circulent sur les médias sociaux ces jours qui montrent des grandes concentrations de combattants des forces de soutien rapide. Quelque part, ils ne disent pas où, mais je pense que ça doit être vers le Darfour, où ils ont un contrôle militaire ferme sur cette région.
Alors, les forces de soutien rapide n'ont pas seulement perdu Khartoum, elles ont dû se retirer aussi de Wad Madani, c'était il y a 2 mois, au sud de Khartoum, et elles n'ont pas pu continuer d'assiéger El Obeid, c'est dans le Kordofan, au sud-ouest de Khartoum. Pourquoi cette série de défaites?
La raison principale du côté des forces de soutien rapide, c'est que c'est une force milicienne. C'est une force de milice janjaïde, où la loyauté des combattants est pour leurs chefs, disons, à cause des liens de clans, les liens tribaux. Et sur le terrain, l'armée soudanaise a visé la liquidation des commandants et cela a mené à une situation où les combattants se trouvaient sans lien direct avec leurs commandants et donc tout cela montre une faiblesse structurelle dans la formation des forces de soutien rapide.
C'est-à-dire qu'en ciblant et en neutralisant les chefs de clan et les chefs de tribu, les forces armées soudanaises ont affaibli les forces de soutien rapide.
Ils ont ciblé, disons, les chefs avec ciblage de drones, oui, mais aussi avec infiltration des forces de soutien rapide. Il y a, par exemple, Galaha, c'est l'un des plus récents, c'est quelqu'un qui était très illustre dans les rangs des forces d'intervention rapide et sa liquidation a beaucoup affaibli le moral de ces forces.
Et ce chef de guerre, il a été assassiné où?
C'était quelqu'un qui était dans le centre du Soudan, dans la région de la capitale, et ses combattants disent que c'était par un drone qui a visé son véhicule.
Son véhicule a été ciblé par un drone.
Voilà, c'est ça.
À Wad Madani, au sud de Khartoum, les FSR ont commis des atrocités contre la population. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont perdu le contrôle de cette ville?
Partout où se sont déployées les forces de soutien rapide, se sont attaquées à la population civile. Dans certains endroits, comme dans l'état du Darfour de l'Ouest, c'était un ciblage ethnique pour des Massalites, par exemple, et c'était des actions génocidaires qu'ils ont commis contre ces populations. Un comportement criminel, et ce qui fait qu'ils n'avaient pas de soutien au sein de la population. Mais alors, au moment où l'armée soudanaise est arrivée à récupérer Gezira, et maintenant ça se passe à Khartoum, il y a certaines unités de l'armée soudanaise qui s'adonnent au même type de comportement criminel, c'est-à-dire des brigades de mort qui visent les populations de l'ouest du Soudan, du sud du Soudan, les Noubas, comme étant des collaborateurs avec les forces de soutien rapide, et ils sont en train de les liquider dans des exécution sommaire devant caméra. Alors, ça ternit certainement l'image de l'armée soudanaise lorsqu'elle se comporte comme les forces qu'il est en train de combattre.
Et cela se passe, dites-vous, dans l'état d'Al Jazeera et notamment dans la ville de Wad Madani au sud de Khartoum?
Elle se passe maintenant, au moment où on se parle, à Khartoum même, dans le quartier de Yeref, à Had Youssef, à, disons, Kalakla, même Jabal Awliya, partout où l'armée a pu récupérer du terrain ces derniers jours, cette semaine même, lorsqu'on parle. Ces brigades se sont montrées vraiment très systématiques dans la poursuite, soi-disant, des collaborateurs avec les forces de soutien rapide.
Alors, ces forces de soutien rapide, elles sont accusées de génocide par les États-Unis et elles sont également sur la sellette devant la Cour internationale de justice, qui va examiner le 10 avril une plainte pour génocide déposée contre elles et contre leur principal allié, les Émirats arabes unis. Est-ce que ces forces rebelles ne sont pas de plus en plus isolées sur la scène internationale?
Bien sûr, elles sont isolées intérieurement dans l'opinion publique, justement à cause des exactions contre les civils. Mais ils ont aussi un soutien politique et diplomatique de taille qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire les Émirats arabes unis soutiennent entièrement les forces d'intervention rapide et utilisant leur influence diplomatique sur plusieurs pays africains, particulièrement dans l'Est de l'Afrique, comme le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie.
Ce qui permet au général Emeti de circuler entre Nairobi et Addis Abeba.
C'est plus discret maintenant. À un moment donné, oui. Au mois de janvier 24, par exemple, il a fait une tournée pendant laquelle il a été reçu comme un chef d'État par le Kenya, par l'Ouganda, par l'Éthiopie, mais même par l'Afrique du Sud. Mais en ce moment, ces pays vont faire un peu plus d'attention à cause de cet isolement international.
Malgré sa défaite militaire de Khartoum, le général Emeti affirme qu'il n'y aura ni retraite ni reddition. Mais est-ce qu'il a les moyens de continuer le combat?
Alors, il y a deux choses, n'est-ce pas? Emeti a fait ses affirmations, ses menaces dans son adresse à l'occasion de Eid al-Fitr. Le même jour, Burhan a fait un discours similaire où il a dit « pas de négociation, pas de compromis avec les forces de soutien rapide, on ira dans la guerre jusqu'à la fin ». Donc, les deux belligérants sont vraiment déterminés à continuer la guerre. Est-ce que les forces de soutien rapide a la force de continuer la guerre? Bien sûr, ces combattants qui se sont retirés du centre de Soudan sont intacts et se sont retrouvés pour se préparer à une nouvelle phase de combat. Et donc la guerre au Soudan n'est pas sur le point de finir, n'est-ce pas? Les deux belligérants se préparent pour des nouvelles phases de combat.
Est-ce qu'il y a un risque de partition du pays, le centre et l'est pour le général Burhan, l'ouest et le Darfour pour le général Emeti?
Cette partition est de fait, n'est-ce pas? Le ouest du Soudan, c'est-à-dire les 5 États fédéraux de Darfour, avec l'exception peut-être de Al-Fashir, la capitale de Darfour du Nord, sont sous le contrôle entier des forces de soutien rapide, et aussi des grandes parties des États de Kordofan du Nord et de Kordofan du Sud et de l'Ouest, n'est-ce pas? Et il y a un contrôle absolu de l'armée soudanaise dans l'est du pays, dans le nord et dans le centre. Donc, il y a une partition de fait dans des zones territoriales contrôlées par les deux belligérants. Au mois d'octobre 2024, Emeti a décrit un embargo d'exportation de produits dans sa région de contrôle vers la région de contrôle de l'armée soudanaise. Et puis, le gouvernement de Port-Soudan, contrôlé par l'armée, a aussi introduit des mesures administratives et financières qui renforcent cette partition de fait. Il commençait à ne pas donner aux populations de l'ouest de Soudan les documents d'identification comme passeport ou bien comme un numéro national d'identité et ainsi de suite. Mais personne à l'ouest du Soudan, ou même pas les forces de soutien rapide, ne veulent faire sécession du Soudan, comme cela a été le cas dans la guerre civile entre nord et sud du Soudan, qui a mené à l'indépendance de ce Soudan. Donc c'est une situation peut-être où chaque parti cherche à renforcer ses cartes pour une négociation éventuelle pour mettre fin à cette guerre.
Donc vous pensez que le Darfour ne connaîtra pas le destin du Soudan du Sud et ne fera pas partition avec Khartoum?
Je ne m'attends pas à cela, non.
Souleymane Baldo, merci.